Vous écoutez RFI, il est 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel.
RFI Matin.
Le journal Afrique avec Vincent Dublange à la une. Vincent, un projet de loi qui ne satisfait pas au Sénégal.
Pas tout le monde en tout cas, Marion. Son examen débute aujourd'hui. Il s'agit non pas d'abroger mais d'interpréter la loi d'amnistie de l'an dernier. Pas le choix, disent les autorités. Mais certaines associations de la société civile le regrettent. Au Mali, on est sans nouvelles du président du Front « Touche pas à mon argent » Aloubadra Sakho, qui est dans les cachots de la sécurité d'État depuis quasiment 3 semaines, sans que l'on sache où ni ce qui lui est reproché. À la une également, le Niger, la Fédération internationale pour les droits humains critique la suppression des partis politiques et la nomination du général Tiani en tant que président pour au moins les 5 prochaines années. Le journal des sports dans 10 minutes, les quarts de finale de la Ligue africaine des champions avec 2 victoires égyptiennes et 2 sud-africaines hier soir. Et puis on connaît les 12 finalistes du prix RFI France 24 du meilleur footballeur africain de Ligue 1 française avec notamment Hakimi, Guiri, Lamine Camara ou encore Evan Nguessan. D'abord donc le Sénégal, l'Assemblée nationale examine aujourd'hui ce projet de texte pour réviser la loi d'amnistie controversée adoptée l'an dernier sous Macky Sall. Controversée car elle annule les poursuites pour tous les crimes et délits commis entre février 2021 et février 2024 au cours de manifestations de l'opposition qui ont fait au moins 165 morts. Mais alors que les autorités au pouvoir depuis un an avaient dans un premier temps promis d'abroger la loi, finalement la proposition est de l'interpréter, de l'amender, ce qui de nouveau divise à Dakar. Les explications de Léa Lisa Westerhoff.
Si le projet de loi du parti au pouvoir, le PASTEF, est adopté, seront exclus de l'amnistie les faits qualifiés d'assassinat, de meurtre, les cas de torture ou encore les traitements inhumains, cruels ou dégradants, et ce même s'ils ont eu lieu au cours de manifestations entre février 2021 et 2024. Pour les défenseurs du projet de loi, cet ajout va permettre aux familles des 65 personnes tuées pendant les manifestations, dont 51 par balle, d'ouvrir une procédure judiciaire et des enquêtes pour identifier les responsables de ces morts. Permettre aussi à toutes les victimes d'obtenir réparation et de ce fait éviter l'impunité. Mais en face, 20 organisations de la société civile et des membres de l'opposition s'inquiètent d'un deux poids deux mesures avec un projet de loi qui dispense de poursuite tous ceux qui ont commis des dégâts matériels et que cette loi d'interprétation ne protège au final les militants du PASTEF, le parti aujourd'hui au pouvoir. Enfin, certains continuent de réclamer l'abrogation pure et simple de la loi. Pour le député du PASTEF Amadou Ba, cette option n'a pas pu être retenue car n'étant pas rétroactive, l'abrogation ne permettait pas de remettre en cause l'amnistie accordée il y a un an. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Dakar, où 20 associations de la société civile ont de nouveau appelé à sursoir au débat, ce débat à l'Assemblée nationale, et à ouvrir aussi des concertations sur cette loi cruciale. C'est ce que nous explique ce matin au micro RFI Aliou Sané de l'association Yanamar.
La problématique de cette loi d'interprétation, c'est avant tout un problème d'ordre moral. Et donc, consulter les acteurs, d'abord, c'est parce que cette loi n'est pas une loi comme n'importe laquelle. C'est une loi qui traite d'un moment douloureux de notre passé récent, avec plus de 80 morts, 2000 prisonniers, des personnes torturées, des personnes qui ont été victimes de traitements inhumains et dégradants, des personnes qui ont été victimes d'incendies de leur domicile, entre autres pratiques. Donc, ce n'est pas n'importe quelle loi. Si on décide de régler ce problème, cette situation, cela mérite quand même que les Sénégalais, dans leur diversité, puissent être écoutés pour qu'on puisse arriver à un consensus national fort. C'est ça le mot, un consensus national fort autour de cette question. C'est un débat qui devait être un débat citoyen, parce qu'il doit engager toute la société sénégalaise.
Aliou Sané de l'association sénégalaise Yanamar. En bref, en Guinée, le pouvoir de transition annonce la date du référendum constitutionnel. Elle était attendue. Ce sera le 21 septembre, décret présidentiel du général Mamadi Doumbouya, lu hier soir à la télévision publique guinéenne. Au Mali, cela fait 19 jours, presque 3 semaines, que l'on est sans nouvelles d'Aloubadra Sakho. Il préside le front Touche pas à mon argent et il coordonne également l'appel du 20 février pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il a été enlevé le 14 mars. À Bamako, il venait tout juste d'animer une réunion anti-nouvelle taxe sur les services téléphoniques. Il est détenu depuis par la sécurité d'État dans un lieu inconnu. Écoutez à ce propos Isidore Ngueuleux, qui dirige le bureau Afrique de l'Organisation mondiale contre la torture, une organisation non gouvernementale.
Malheureusement, nous n'avons pas de nouvelles. Il a des maladies chroniques et on n'est pas sûr en fait qu'elles soient bien prises en charge dans les lieux où il est actuellement détenu. Donc effectivement, il y a des craintes sur cette situation et on ne sait pas en fait quel est son état actuel.
Des craintes d'autant plus fortes que la semaine dernière, l'un de ses collaborateurs du Front Touche pas à mon argent a son tour échappé à une tentative d'enlèvement.
Oui, Monsieur Mamadou Sidibé a aussi fait l'objet d'une tentative d'enlèvement en pleine rue de Bamako. Si ce n'était pas l'intervention des riverains, il aurait été effectivement enlevé par des personnes encagoulées dans des véhicules banalisés. On voit que de manière tendancielle, les personnes sont enlevées dans les rues de Bamako par des hommes encagoulés, ne se réclamant pas de la sécurité de l'État, mais on a fini par établir qu'il s'agissait bien de cette agence de l'État. Il y a plusieurs journalistes et acteurs de la société civile qui, ces dernières années, ont, pour leur position critique, fait l'objet d'enlèvements et ont été torturés pour certains. Et cela commence à préoccuper.
Isidore Nguele, interrogé par David Bachet. RFI diffuse justement ce matin en exclusivité au micro de David Bachet le témoignage d'un ancien détenu de la sécurité d'État au Mali, Amadoun Diko, président de l'association Peul Jeunesse Poulakou International, qui a passé 3 mois au secret en dehors de toute procédure judiciaire. L'an dernier, il vit depuis en exil et son témoignage inédit est à retrouver à tout moment sur notre site RFI.fr et sur notre application de podcast, bien sûr, RFI Pure Radio. Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale, 8h36 à Niamey, où le gouvernement annonce une vague de libération. D'après nos informations, elles ne sont pas encore effectives, mais elles pourraient avoir lieu dans la journée. Une cinquantaine de personnes sont concernées. Il y a notamment d'anciens ministres sous Mohamed Bazoum, Mahaman Sani Issoufou, le fils de l'ex-président Mahamadou Issoufou, ex-titulaire du portefeuille stratégique du pétrole. Il y a aussi Kala Moutari, l'ancien ministre de la Défense. Concerné aussi le journaliste Ousmane Toudou, ainsi que des militaires condamnés pour des tentatives de putsch sur la dernière décennie, dont l'ex-chef d'état-major nigérien Salou Souleymane. La semaine dernière, lors de son discours à la Nation, le général Tiani avait parlé pardon et réconciliation. Ce mercredi 26 mars, il y a une semaine donc, il était du même coup fait président de la République pour les 5 prochaines années. Au moins, une charte a été promulguée, les partis politiques dissous. Pour la Fédération internationale pour les droits humains, le Niger s'enfonce dans l'autoritarisme. Écoutez Maître Drissa Traoré, le secrétaire général de la FIDH.
Cette décision consistant à dissoudre les partis politiques vient achever le musellement des partis politiques puisqu'elles avaient déjà suspendu ces partis politiques-là. On aboutit maintenant à l'imposition d'un pouvoir qui n'a plus de limite puisqu'il bénéficie, le chef de la junte, de 5 ans qu'il pourrait renouveler éventuellement. C'est la même mise sur tous les organes du pouvoir et il n'y a plus de possibilité de parler d'une autre voie que celle des militaires. On a déjà vu des acteurs de la société civile comme Tchangari en prison parce que ce sont des personnes qui osaient parler. Aujourd'hui, c'est la fermeture, si je peux utiliser ce terme-là, de tout l'espace civique et démocratique du Niger. Ça montre tout simplement qu'on a un pouvoir qui s'impose et qui impose à l'ensemble de la population nigérienne.
Propos recueillis par Magali Lagrange. La France et l'Algérie, réchauffement des relations entre les deux pays, ont commencé à le pressentir. Le président Abdelmadjid Tebboune avait ouvert la porte en quelque sorte il y a 10 jours dans une interview. Lundi soir, il a eu au téléphone son homologue Emmanuel Macron. Dans la foulée, les deux pays ont publié un communiqué commun, un communiqué qui évoque de nouvelles relations entre la France et l'Algérie, diplomatiques, économiques, migratoires, sécuritaires. Cette reprise des échanges qui doit s'engager dans quelques jours à Alger, Guillaume Thibault.
Ne pas tomber dans le brouhaha politique, c'était le souhait déclaré d'Abdelmadjid Tebboune. Et le chef de l'État a dû être rassuré dès le début de l'année, car depuis janvier, la cellule diplomatique de l'Élysée s'est rendue 3 fois à Alger pour poser les nouvelles bases des relations entre les deux pays. C'est d'ailleurs la dernière visite, il y a quelques jours, indique une source diplomatique, qui a débouché sur l'entretien téléphonique lundi soir entre les deux présidents, qui ont donc parlé de refondation avec une volonté de résultat, notamment sur les questions migratoires. Première étape annoncée, la réunion qui doit se tenir rapidement entre les 18 consuls algériens basés en France et les préfets pour rétablir au plus vite une coopération migratoire plus fluide, indique Paris. Autre point visiblement crucial, la relance immédiate de la coopération sécuritaire, des échanges entre services, notamment sur les problématiques terroristes en Afrique de l'Ouest. Pour marquer cette volonté diplomatique, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est annoncé à Alger ce dimanche. Son homologue de la justice, Gérald Darmanin, devrait devrait également se rendre rapidement en Algérie.
C'est une affaire qui suscite une certaine émotion en République démocratique du Congo. La mort violente d'un policier affecté à la circulation sur l'un des grands boulevards du quartier d'affaires de la Gombe à Kinshasa. Le brigadier Fiston Kabeya a d'abord été pris à partie par l'escorte de la première ministre. C'était mardi, il y a une semaine. Il a ensuite passé plusieurs jours au parquet militaire et de là a été transféré vers un hôpital dimanche. Il y est décédé. Une enquête est ouverte, explique la première ministre congolaise Judith Suminwa, qui exprime son profond regret suite à la mort, je cite, d'un homme dévoué à servir notre pays. Retour sur l'affaire avec Pascal Moulegua.
La scène est relatée par un policier témoin de l'événement. La vidéo est devenue virale. Mardi dernier, les bouchons assaillent le boulevard Mondjiba. Le cortège de la première ministre prend les contresens interdits par les codes de la route. Ces jours-là, les policiers de la route frayent les chemins pour les cortèges après une altercation verbale entre eux et les membres du cortège de la chef du gouvernement. Quelques minutes après, raconte son collègue, une partie du cortège revient, embarque les brigadiers Kabeya Fiston, lui roue des coups, puis l'amène. La police, sans plus de détails, a confirmé les décès dans un communiqué. Le ministre de la Justice s'en est mêlé. Le procureur de l'armée a été instruit d'engager des poursuites en flagrance contre les auteurs. La mort de ces policiers a provoqué un tollé, certains exigeant des sanctions contre la chef du gouvernement. D'autres ont rappelé les tensions sur les routes de Kinshasa entre les policiers et la garde rapprochée des officiels récidivistes. Les cas de violence sont en tout cas légion, mais ne conduisent pas souvent à la mort, nous a déclaré un des hauts dirigeants de la police. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI.
À la République démocratique du Congo, et cette mesure de grâce, ou en tout cas de peine commuée pour Marcel Malanga, c'était l'un des éléments accusés de l'attaque, de la tentative de coup d'État du 19 mai 2024 à Kinshasa. Sa peine est commuée de la sentence de peine de mort à la prison à perpétuité, Marion.
Merci Vincent Dublange.